Maudit que je m'endors. Je pense que j'ai besoin d'un café. Téléphone intelligent, dis-moi où est le Tim Hortons le plus proche.
Fuck le Tim Hortons.
Quoi?
Va donc au Salon G à la place au Salon G. Le café est vraiment bon, tu vas l'apprécier. C'est pas juste un jus de boîte que tu bois en attendant qu'il soit l'heure de tomber dans le jean à cochon.
Situé au niveau métro du pavillon Aquin, le Salon G, c'est la place pour te sustenter.
Bonne nouvelle, Let's Eat Grandma figure au palmarès de choc.ca. Et devinez quoi? La formation donne son tout premier spectacle au Canada le 23 septembre au bar Le Ritz PDB. Précédez les tendances et assistez ici même dans le cadre du très cool festival Pop Montréal à la prestation de ce groupe dont tout le monde parlera sous peu. Pour obtenir des billets ou plus de renseignements, allez au popmontréal.com. Hey! Êtes-vous fan du groupe The Lumineers? Le 23 septembre, notre vedette locale Jesse McCormack jouera au Rialto Hall dans le cadre du lancement de son nouveau EP After the Glow, paru sur Secret City Records. Une prestation dont les billets s'envoleront très vite à coup sûr. Venez le voir avant qu'il ne se produise à guichet fermé au Festival de Jazz. Une chance unique de vivre l'expérience underground de Pop Montréal. Pour obtenir des billets et plus de renseignements, rendez-vous sur le site popmontréal.com.
Croyez-vous que les médias ont une part de responsabilité dans votre défaite?
Pas du tout. Les médias ont toujours raison. Les médias ont toujours raison.
Bonjour à tous nos auditeurs, bienvenue à cette toute nouvelle émission de La Faute aux médias en compagnie de votre animateur Émilien Roscanou sur les ondes de choc.ca. Ce soir à l'émission, nous avons trois chroniqueurs, Alex Bachalani qui fait aussi la technique, Tessie Jean-Paul ainsi que Véronique Ferre-Forêt. Bonjour à tous.
Bonjour.
Donc ce soir, vous aurez remarqué que Camila Rodriguez-Ca n'est pas avec nous, mais elle nous écoute et elle sera de retour très prochainement. Donc bonjour à toi Camila qui nous écoute en ce moment. Aujourd'hui, on a plusieurs sujets. On va commencer tout de suite avec Véronique Forêt. Donc Véronique, cette semaine, il y a eu la couverture médiatique de la visite royale à Victoria qui a été assez pittoresque, merci. Les médias se sont vraiment donnés pour nous parler de cet événement sous tous ses angles importants, n'est-ce pas?
Oui, et le plus important, George, le fils aîné de Kate et William, a refusé de faire un high-five à Justin Trudeau. Les informations aussi absolument pas sexistes sur les vêtements portés par Sophie et Kate. Et aussi, où spotter le duc et la duchesse de Cambridge pour avoir une chance de leur serrer la main et peut-être de prendre un selfie avec eux. Faut croire qu'il n'y a pas juste Trudeau qui a le monopole du selfie.
Puis tout ça commence à commencer. C'est quoi en gros cette visite-là?
En fait, c'est la deuxième visite officielle du couple. La première a été en 2011, c'était tout de suite après leur mariage. Donc, ils sont au Canada pour 8 jours. Ils sont arrivés ce samedi, arrivés en grande pompe avec l'accueil de Trudeau et tout. Dans le fond, ils sont venus pour faire des visites un peu dans un but philanthropique, donc aller visiter les plus démunis, surtout en Colombie-Britannique et au Yukon, en fait, exclusivement. Aussi, ils ont emmené leurs 2 enfants, puis c'est le premier voyage officiel de la petite Charlotte, la plus jeune de 16 mois, et de Georges, lui, qui a 3 ans. Évidemment, il y a une couverture médiatique très importante en Angleterre. Les journaux britanniques se sont amusés à parler longuement, en long et en large, du high-five, du refus de high-five, en fait, de Georges. On va mettre la vidéo en ligne, vous allez voir, c'est très, très, très mignon.
Un événement incroyable.
Oui, exactement. Je vais vous nommer quelques petits titres qu'on a pu voir dans la presse britannique. Évidemment, on a fait une petite traduction francophone. Dans le Independent, on a vu « Le prince Georges laisse la main de Justin Trudeau dans les airs après une top là ». Ensuite, Telegraph a écrit « Le prince George et la princesse Charlotte ont fait un mauvais coup lors de leur tournée canadienne ». Et mon préféré du Daily Mail, « Désolé, mais celui-ci ne tape pas dans la main des roturiers
». Ils font pas affaire avec la petite bourgeoisie canadienne.
Non, exactement.
Donc, dans le fond, c'était quoi le véritable objectif de la visite de Will et Kate?
En fait, c'est en Angleterre, ça a été un peu relégué aux oubliettes. Officiellement, c'est Will et Kate qui sont au Canada comme j'ai dit, dans une visite à caractère philanthropique. Officieusement, c'est surtout un prétexte. On a vu, dans la presse canadienne, on a eu une couverture médiatique beaucoup moins superficielle puis beaucoup plus juste dans le pourquoi et le comment de la visite. Les médias canadiens ont fait intervenir plusieurs experts, autant pro-monarchiques qu'anti-monarchiques, puis ils s'entendent pour dire qu'au-delà des activités philanthropiques puis les visites de la royauté chez les plus démunis, le véritable but de ce voyage-là, c'est plutôt de redorer l'image de la monarchie britannique aux yeux des Canadiens. Faut pas oublier que on est une monarchie constitutionnelle, donc la royauté est très importante au Canada. Puis c'est un peu dans la continuité de ce que Harper a essayé de faire durant, mettons, je dirais, son règne au Parlement. il a essayé de mettre beaucoup d'emphase sur l'image de la monarchie. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment donné, on pouvait acheter des portraits de la reine pour mettre dans son chez-soi. Je suis sûre que Émilien, t'en as un dans ta chambre.
J'en ai un dans ma chambre, mais j'ai des amis aussi qui en ont commandé une quinzaine pour faire un beau feu de joie.
C'est ça. Durant tout son règne, Harper a essayé de redorer l'image de la royauté. Puis, on a vu que ça n'a pas vraiment porté fruit. En fait, en 2012, il y a eu un sondage...
Tu m'étonnes.
Il y a eu un sondage des Léger Marketing qui a révélé que 32% de la population considérait la monarchie comme pas du tout importante. Zéro. Puis, 51% des répondants ne sont pas du tout impressionnés par l'appartenance historique à la couronne britannique. Donc, moi, ça m'a un peu étonnée parce que je pensais vraiment que, dans le fond, les Canadiens comme aimaient beaucoup la reine et tout. Mais en réalité, pas tant. Ils l'aiment, mais est-ce qu'ils ont une appartenance? Non, pas vraiment. Puis, même là, tu sais, que la reine soit là ou non, ça leur change pas grand-chose. Je pensais qu'il y avait une différence nette entre le Québec puis le Canada, puis finalement, pas tant que ça.
Moi, je pense que les Canadiens ont une plus grosse appartenance à la royauté de Game of Thrones.
Peut-être.
Team Cersei.
C'est peut-être dans ces...
Team Stark.
Dans ces moments-là qu'on voit vraiment, tu sais, dans ces moments médiatiques-là qu'on voit l'importance que la reine, parce que je vous avoue que, tu sais, même avant ça, on oublie carrément l'existence de la reine, pas la reine, mais même de la reine, de la duchesse
ouais,
et tout. Je pense que c'est juste une espèce de frénésie pour avoir le fun de, parce que, tu sais, cette semaine, j'écoutais justement Radio-Canada sur le sujet, puis t'entends des gens qui se font interviewer justement par des journalistes, puis, tu sais, on dirait que c'est leur... grands-parents qui viennent, on dirait que c'est des gens de la famille, tu sais, moi, quand mes gens, ma famille me dit « Ah, ta tante vient, je suis tellement énervée », mais c'est le même énervement, puis t'es comme « Ah, c'est spécial ».
Ouais, mais c'est-tu la majorité des Canadiens, tu sais?
Peut-être pas.
Je pense pas tout, puis j'écoutais des entrevues aussi, on disait qu'à Victoria, que moi, c'est une ville que j'ai adorée, que j'ai visitée à plusieurs reprises dans ma vie, mais on la voit, l'influence de la monarchie dans cette ville-là. Les autobus touristiques ont le drapeau de l'Union Jack, tu sais, c'est comme...
Ouais, c'est beaucoup une question de marketing.
Mais partout dans le Canada, peut-être
non,
pas.
Non, peut-être pas. C'est plus autour, ouais, c'est autour des événements, parce qu'après ça, là, dans deux semaines, tout le monde va avoir oublié la reine et la duchesse et le high-five du petit...
C'est assez passager.
Ben, exactement. Après...
Une petite bulle médiatique.
C'est ça.
dans le fond, je vais conclure en disant que... le travail des médias sur cette couverture-là, ça aurait pu être une couverture vraiment intéressante parce qu'ils s'en vont visiter des endroits vraiment intéressants, autant l'environnement que les plus démunis, que je pense que c'est aujourd'hui ou demain, ils allaient visiter une clinique pour des personnes accros à la drogue, ces trucs-là. Tu sais, c'est quand même des beaux sujets. Mais les médias, en fait, ils ont juste parlé des vêtements de Kate Middleton, des vêtements de Sophie. Ils ont parlé du high-five, ils ont parlé de choses totalement inutiles. Donc, je pense qu'il reste beaucoup de travail à faire. Encore une fois, le travail des médias et pas vraiment à la hauteur de nos attentes. Puis moi, ce qui m'a vraiment frustrée, c'est le côté sexiste, là. Au lieu de parler des idées de Kate puis de Sophie, ils ont encore parlé de leurs vêtements. Puis c'est tout ce qu'on a su sur elles, puis ce que je trouve déplorable.
Mais peut-être qu'on... avec cette analyse-là, parce que oui, ils vont visiter certains centres, des hôpitaux et tout, peut-être qu'on peut même se questionner sur la place encore de la monarchie en 2016. Là, si on est vraiment rendu à avoir des gros titres comme « il a pas fait un high five » ou « il a fait... » Tu sais, il y a quelque chose...
Mais dans la presse, ce qu'on avait vu, c'était que dans la presse canadienne, c'était déjà un peu plus le cas, même des pro-monarchistes, des anti-monarchistes, expliquaient davantage c'était quoi les véritables objectifs de la famille royale de venir à ce moment-ci au Canada. Tandis que du côté de la presse britannique, c'était vraiment beaucoup plus superficiel. Mais ils sont plus habitués aussi avec les histoires de royauté.
William et Kate là, sont tellement... C'est des stars. C'est pas juste la monarchie, là, c'est des stars. Les gens les aiment, les idolâtrent. C'est un peu comme Trudeau puis sa femme Sophie. Là, ils vont dans des événements, les gens veulent être pris en photo avec eux et tout. Là,
Mais tu sais, il y a un pouvoir, Justin Trudeau. C'est le premier ministre. Ouais. Mais après, tu sais, avec... William et autres, là, le prince, donc le duc.
Le prince est Charles. Ouais.
Bon, ben merci beaucoup, Véronique.
Un plaisir.
Donc, on suit tout de suite, on enchaîne avec Tessie Jean-Paul, qui va nous parler de diversité culturelle au Québec. Des fois, on a de la misère à allier diversité culturelle et identité québécoise. Donc, c'est un peu sur cette problématique-là que tu t'es penchée.
Oui, effectivement. Donc, aujourd'hui, la chose que je vais faire dans un premier temps, c'est un petit peu comprendre, parce que bon, on avait parlé de diversité culturelle, c'est peut-être pas assez. On va aller un petit peu... voir, tu sais quoi, l'affirmation de l'identité québécoise, depuis quand ça existe? C'est sûr que, bon, le peuple québécois est encore un peuple très jeune, on peut le dire. L'affirmation est tout récente, là. On peut voir même le nom québécois est tout récent. Avant, c'était canadien-français. Donc, justement, avec la montée de certains mouvements, on pourrait dire, de gauche, de certains mouvements d'émancipation à travers le monde, comme à Cuba, en Algérie. Le Québec a grandement été influencé par, justement, ces mouvements d'émancipation-là. Donc, qu'est-ce qui, aujourd'hui, qu'on comprend un petit peu pourquoi le Québec cherche encore à pouvoir s'émanciper, entre guillemets. Donc, depuis les années 60, on voit vraiment une espèce de retour aux sources. On veut être capable de s'identifier puis d'avoir des institutions à nous, d'où la création du ministère de la Culture en 1961, vraiment pour favoriser l'unité sociale autour d'une même langue, autour d'une même culture, qu'est-ce qui est tout à fait normal. Donc, on voit vraiment une création de politique en matière de langue, de conservation et autres. Pourquoi autant? Parce que, bon, on est quand même... la province québécoise est la seule francophone déjà du Canada.
Oui, la seule officielle, oui.
Exactement, c'est ça. On est 20% à parler français au Canada, puis seulement 2% en Amérique du Nord. Donc, on n'est pas beaucoup. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Intéressant à regarder parce que, bon, la langue représente en fait qui nous sommes, ça nous définit, ça nous différencie. Donc, la perte d'une langue, ça peut être totalement dramatique pour notre propre identité, pour notre avenir, pour la transmission des valeurs. Donc, c'est vraiment important de garder ça. Donc, ces données, justement, de peut-être... soit qu'on n'est pas beaucoup à parler français, motive d'autant plus les politiques en matière de culture au Québec. La langue est un point d'ancrage, donc on le voit beaucoup justement avec... hier, il y avait le débat des quatre
aspirants chefs, ouais,
exactement,
du Parti québécois.
C'est ça. Donc, on le voit, c'est au cœur du débat constamment. Donc, c'est normal parce que, bon, on voit vraiment une chute libre dans vraiment l'appropriation de la langue francophone, non seulement par les gens d'ici, mais même les gens qui arrivent aussi.
Oui, donc... puis la globalisation culturelle aussi, là, la McDonaldisation de la culture.
Exactement, c'est ça. Donc, c'est tout à fait normal que le Québec essaie de se protéger, essaie de garder quand même une certaine authenticité, essaie de pouvoir garder ses valeurs, sa langue. Donc, la langue et les valeurs, ça permet aussi une certaine unité sociale, on s'entend là-dessus. Donc, si tout le monde se branche vers un seul objectif, c'est beaucoup plus intéressant, ça nous permet d'avoir un meilleur vivre ensemble. Donc, pourquoi... je vais venir un petit peu... contrecarrer cette idée par, en fait, l'idée de diversité culturelle. Cependant, la volonté de vouloir peut-être vraiment mettre des balises, vraiment mettre de l'avant la culture, est-ce que ça nous met peut-être des œillères au niveau, par exemple, de l'immigration, des enfants d'immigrants, même des Autochtones qui étaient là bien avant que les colons arrivent? Aujourd'hui, malheureusement, on constate que la scène artistique québécoise est très peu représentative de la population québécoise. Tandis qu'aujourd'hui, c'est sûr que, bon, oui, il y a une différence entre Montréal et le reste du Québec, mais on s'entend quand même que le Québec reçoit quand même beaucoup d'immigrants par année. Donc, c'est sûr que Montréal, c'est la grande métropole, c'est sûr et certain que c'est là que les gens vont pouvoir se diriger. Souvent, on me dit, est-ce que c'est un débat montréalais ou québécois? Non, c'est un débat québécois parce que c'est la province qui accueille et c'est pas la ville de Montréal qui accueille les immigrants.
Non, effectivement.
Donc, c'est important de mettre ça vraiment en liste de tête. Le Québec voit vraiment une grande population migratoire de plus en plus importante sur le territoire. De plus, la chose qui est importante à noter, c'est que, tu sais, même dans les années 60-70, j'avais fait une recherche là-dessus sur les vagues d'immigration, puis beaucoup d'immigrants, surtout dans les années 60-70, la main-d'œuvre était beaucoup francophone, donc les gens favorisaient justement les francophones. Aujourd'hui, on a beaucoup d'immigrants de souche latine et francophone, donc, tu sais, on n'est pas avec une langue totalement autre ou une culture totalement autre. Donc, il y a quelque chose à faire
non,
avec ça.
Non, puis sans compter les immigrants du Maghreb qui parlent souvent déjà français quand ils arrivent.
Exactement.
Ou presque mieux français que certains Québécois.
Oui.
Exactement, c'est ça.
Donc, ou même les familles provenant du Moyen-Orient. Comme moi, mes parents sont immigrants du Liban, puis français, qui est une langue officielle.
Le Maghreb, le Moyen-Orient. Puis même d'Asie, là, je veux dire... Au Vietnam, il y en a beaucoup qui parlent français. Mm-hmm. Puis
le français est une langue qui est valorisée. C'est bien vu de parler français quand tu viens. C'est bien vu dans les hautes sphères de la société.
Oui,
puis
c'est ça.
Nos immigrants viennent des hautes sphères de la société. Là.
Oui, effectivement.
Ils prennent pas n'importe qui en tant qu'immigrant. Là. Oui. Donc, c'est des gens hyper qualifiés puis qui parlent très bien français souvent. Là.
C'est ça. Même c'est ça. Mes grands-parents, quand ils sont arrivés au Québec, ils parlaient déjà roumain. Ils venaient de Roumanie. Puis... Mm-hmm. Ils étaient déjà francophones.
Exactement, c'est ça. Donc, tu sais, en même temps, moi, je me dis, la province du Québec a tout à jouer de pouvoir inclure la diversité dans tout qu'est-ce qu'elle fait, parce qu'on a le même combat. La même chose pour moi. Moi, je suis issue, bon, on va dire de la diversité. Puis, je suis de souche francophone et mes parents le sont tout autant. Donc, c'est important d'avoir le même combat, parce que si on commence à commencer à se battre sur son côté, puis de se dire « Ah oh, non, c'est ça les priorités », la priorité, c'est d'avoir un Québec qui a le même objectif. Donc, que tu sois, peu importe, issu de la diversité ou pas, ou que tu sois d'origine autochtone ou peu importe, le Québec, c'est que moi, autant le français, c'est ma langue maternelle, mais c'est la langue maternelle à beaucoup d'autres personnes. Par exemple, même toi, Alex, qui c'est probablement ta langue maternelle. Là, si
le français.
Ouais, ouais, c'est ça. Donc, beaucoup de personnes, c'est ça. Donc, c'est important de pouvoir garder ce cap-là. Donc, en fait, moi, j'avais fait un petit sondage auprès de quelques utilisateurs cet été. Donc, à savoir, c'était quoi, en fait, qu'est-ce qui le permettait de dire qu'il y avait de la diversité, oui ou non? Donc, globalement, 60% des répondants étaient de souche québécoise, contrairement à 40%. Par la suite, qu'est-ce qui est ressorti en termes de consommation culturelle? C'était, bien sûr, en premier lieu, l'humour, deuxièmement, le cinéma et la musique. Et après, j'ai demandé un espace commentaire. Donc, j'ai demandé, trouvez-vous qu'il y a beaucoup de diversité culturelle? C'était très serré, je vous avoue. Le peu a dominé sur le pas beaucoup. Puis après, les commentaires, qu'est-ce qui vient en commentaire, en fait, c'était on trouve que le Québec est diversifié parce que bon, on a beaucoup de festivals, par exemple à Montréal et tout, mais encore dans les écrans, dans le quotidien, on en a moins. Donc oui, tu sais, durant l'été, on a quoi, 3 mois d'été au Québec. Puis là, c'était comme un amalgame de cultures tout d'un coup qui nous vient. Puis surtout, c'est en surface. C'est important de le dire parce que le festival d'Afrique, oui, tu y vas 2-3 jours, mais est-ce que tu vas vraiment apprendre c'est quoi la culture africaine? J'en doute fortement.
Puis ça sortait souvent dans les médias aussi. Il y a souvent eu des discussions, pas encore, ça se discute à propos de la scène québécoise, la télé, le cinéma, les humoristes et tout. C'est tellement homogène. Mm. Puis c'est pas juste homogène blanc, là, c'est homogène les mêmes visages.
Oui, effectivement.
C'est les mêmes 4 acteurs qui font tous les rôles.
Et qui gagnent tous les prix.
Ouais, c'est ça. Il y avait à la soirée des Gémeaux, je sais pas si vous l'avez écouté, mais je me souviens plus c'est quoi son prénom, mais c'est dans le fond lui qui joue Séraphin dans Les Pays d'en haut.
OK.
Lui en réalité, c'est comme un no-name de l'industrie, OK? Avant de faire ce rôle-là, il était pas vraiment connu. Il a gagné le prix de l'interprète de l'année, je pense. Puis il a dit là les producteurs, réveillez-vous là. Puis on n'a pas besoin de tout le temps mettre les mêmes faces sur les écrans. Fait que tu sais, Guylaine Tremblay est bien bonne, là, mais à un moment donné, pouvez-vous mettre quelqu'un d'autre, tu sais, c'est comme... Puis autant des visages blancs que des visages, tu sais, parce que le Québec, on n'est pas juste blanc, là, on n'est pas juste... on vient pas juste de Montréal non plus.
C'est comme par rapport au le prix Polaris... Kate Chanada, qui est un artiste hip-hop de Montréalais, qui a été le premier noir à remporter le prix.
C'est incroyable. C'est comme si, dans les dernières années, il n'y avait pas d'autres noirs montréalais qui faisaient du hip-hop ou québécois.
Exactement.
En tout cas, merci beaucoup, Tessie.
Ça fait plaisir.
Donc, on se quitte maintenant en chanson avec Hall de Croy. Vous écoutez toujours La Faute aux médias en compagnie de votre animateur Émilien Roscanou. Vous venez d'entendre Hall de Croy, c'était une des membres de Milk and Bone qui faisait un projet solo. Très belle chanson. Donc maintenant, on enchaîne tout de suite avec Alex. Alex, tu vas nous parler d'un événement politique et médiatique très important qui arrive ce soir, en fait.
Ouais.
Le débat des candidats à la présidentielle des États-Unis, Hillary Clinton et Donald Trump.
Et oui, aujourd'hui, c'est le grand jour. C'est le fameux Clinton versus Trump, partie 1. Dans le fond, je vais vous parler, moi, de le concept qui s'appelle la validation des faits. ou le fact-checking en anglais. Ceci est lorsqu'un animateur d'un débat politique télévisé intervient pour corriger des propos inexacts qu'un des candidats a dit lors du débat. Et ce soir, le fact-checking ne sera pas de la partie. NBC a décidé de ne pas intervenir lors du débat, donc l'animateur Lester Holt devra simplement modérer et poser les questions.
C'est quand même incroyable.
Oui, il y a seulement Bloomberg qui a dit qu'elle allait faire une couverture personnelle avec des validations des faits sur leur chaîne. Selon moi, ça avantage vraiment Trump, car il a fait sa renommée en disant n'importe quoi, sans aucune vérité. Fait qu'il pourra juste continuer à faire ça sans stress.
Oui, puis à l'heure de l'instantané, quand Donald Trump se présente devant les médias puis dit une fausseté, une grossière fausseté, ben, il n'y a pas quelqu'un dans la salle qui a déjà vérifié l'information pour le dire, puis c'est déjà trop tard, ça a déjà frappé l'imaginaire.
Exact. La population américaine qui regarde ça, dans le fond, ça va vraiment être une partie de « he said, she said » entre lui puis Clinton.
Oui.
Il n'y aura personne qui pourra juste venir puis dire « non, ça, c'est pas vrai ». Donc, ce serait intéressant à voir qu'est-ce qui va se passer.
Mais puis, je trouve que, excuse-moi, c'est très américain un peu, tu sais, de pouvoir laisser... la main magique du marché opérée. c'est vraiment ça, un peu, là.
Ouais. C'est que, puis l'équipe de Clinton ont tenté de convaincre NBC d'utiliser la validation des faits lors du débat, mais en vain. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner ce soir.
Ouais, j'ai hâte de voir comment Clinton va se défendre. Mais le handicap de Clinton s'arrête pas là?
Non, vraiment pas, parce que je lisais justement un article de Lisa Feldman, qui est un professeur de psychologie. Elle a écrit un article dans le New York Times. Et dans le fond, elle dit que le visage de Clinton pourrait lui nuire. En effet, une étude qu'elle elle-même a menée montre qu'une femme avec des expressions faciales sévères est vue comme étant affectée par des émotions, comme la colère ou la tristesse, par exemple, tandis qu'un homme avec les mêmes expressions faciales serait plutôt en train de réfléchir ou examiner la situation courante.
C'est extrêmement sexiste.
Oui. Donc, dans le fond, qu'est-ce que ça montre? C'est que les femmes en politique sont vues comme étant bêtes et froides, tandis que les hommes sont vus comme étant penseurs ou ayant tout simplement une mauvaise journée au bureau, genre. Fait que ce soir, Clinton devra donc faire face à ce genre de critiques du public et peut-être même d'analystes politiques des diverses chaînes de télévision qui vont comme dire « Ah, ben, lors du débat, elle aurait un peu bête. » Tandis que non, pas nécessairement.
Mais c'est comme un petit peu hier soir aussi avec Mme Martine Ouellette, là. Les gens la trouvent agressive et trouvent... mais pourtant, tu sais, probablement ses critiques sont simplement fondées sur le fait qu'elle soit une femme, tu sais, plus qu'autre chose.
Oui, c'est souvent le cas. Les critiques sont impitoyables, puis pour des raisons totalement irrationnelles, aberrantes.
Effectivement.
Moi, je trouve juste ça drôle, comment on dirait que depuis que Trump est venu dans le monde politique américain, on dirait que tout va en place pour l'avantager. C'est vraiment comme... Je sais pas si c'est de la chance ou de la malchance, mais c'est ça qui se passe. Puis comme South Park nous l'a rappelé lors de leur premier épisode de la nouvelle saison, cette campagne électorale oppose vraiment un sandwich de marde et une géante idiote.
Mais j'ai hâte de voir... qu'est-ce qui va se passer dans le débat ce soir? Donc, malheureusement, c'était tout le temps dont on disposait. Merci beaucoup. Donc, c'était tout pour notre émission. Vous étiez en compagnie de votre animateur Émilien Roscanou sur les ondes de choc.ca. Aujourd'hui, on avait comme chroniqueur Tessie Jean-Paul, Véronique Forêt ainsi que Alexandre Bachelani qui s'occupait également de la technique. Merci beaucoup à Francis Terrien pour les réseaux sociaux et à Marie Chabot-Johnson pour la recherche et l'aide soutenue de l'équipe depuis l'Écosse. Je vous souhaite une très belle semaine. On se revoit la semaine prochaine. Je vous quitte en chanson avec Far Rockaway, theme de l'artiste Drug Dealer.